Et tout de suite, 8 milliards de
Et merci beaucoup RFI pour ce journal. Il est midi 10 et vous écoutez La Clé des Ondes à Bordeaux. C'est notre plat de résistance jusqu'à 13h. Aujourd'hui, on va parler de la révolution des œillets. C'était le 25 avril 1974 au Portugal. Qu'en reste-t-il 50 ans après, alors que l'extrême droite fait une percée dernièrement au Portugal? C'est la question qu'on va poser à nos invités. Et puis à 13h, dans Histoire de voir, Histoire au pluriel, il sera aussi question de révolution avec l'historienne Ludivine Bantini et son Histoire mondiale des révolutions. Elle sera au micro de Jean-Pierre Lefebvre. On commence avec quelques informations locales. Bonjour Léa.
Bonjour Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Local ou pas local d'ailleurs, puisqu'on commence avec ce 19 avril, c'est la semaine dernière, le PCOF, Parti communiste des ouvriers de France, publie un communiqué mettant en garde contre la criminalisation de la solidarité avec le peuple palestinien.
Oui, Jean-Paul Delesco, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT du Nord, vient d'être condamné à un an de prison avec sursis après avoir diffusé, le 10 octobre 2024, des tracts de soutien avec la Palestine. Sur le tract en question était écrit, je cite, « La fin de l'occupation est la condition de la paix en Palestine ». Et la dénonciation dans ce tract des, je cite, « horreurs de l'occupation illégale qui se sont accumulées et de la politique d'apartheid de concentrationnaires privant le peuple palestinien de ses droits fondamentaux » a été assimilée à une apologie du terrorisme, c'est ce pourquoi il a été condamné. Le PCOF dénonce cette condamnation qui relève pour elle, je cite, « d'un précédent dangereux dans une série de plus de 40 procédures en cours » visant sur le même motif des personnalités, des militants et des militantes et des organisations. L'Union départementale du Nord et le mise en cause ont fait appel de cette décision et la CGT, dans un communiqué, dénonce elle aussi cette décision. Elle dit, je cite, « En déniant à une parole syndicale la possibilité de porter une analyse géopolitique et de penser le monde, en criminalisant lourdement cette période sur le registre de la répression terroriste, nous assistons à une nouvelle dérive et à une réduction importante du périmètre de la liberté syndicale et de la liberté d'expression. »
On revient dans le sud de la France avec ce week-end plusieurs mobilisations qui ont lieu contre le projet de ligne à grande vitesse, le GPSO, qui relierait Bordeaux, Dax et Bordeaux-Toulouse, des mobilisations qui ont lieu à Cadojac.
À l'initiative de ces mobilisations, c'est le collectif LGV Non Merci, regroupant plusieurs groupes locaux de personnes opposées à ce projet de ligne à grande vitesse. Et à la suite de la manifestation intitulée « La Grande Vadrouille », plusieurs personnes mobilisées contre le projet de LGV ont squatté une ancienne ferme qui vient d'être expropriée et qui sera bientôt détruite pour élargir la voie ferrée. Après moins de 24 heures de blocage, une trentaine de gendarmes sont venus déloger les occupants et les occupantes de la ferme, qui sont partis de manière totalement pacifiste. Et sur le site LGV Non Merci, le collectif explique et rappelle en quoi ce projet est une, je cite, « aberration ». Et parmi ce qui est cité, il est rappelé que ce projet piétine les enquêtes publiques qui lui sont défavorables à plus de 90%, ainsi que de multiples rapports soulignant sa non-pertinence, voire son incohérence. Il est passé en force sous déclaration d'utilité publique, malgré les nombreux recours au tribunal administratif. De plus, du point de vue écologique, ce projet va détruire près de 5000 hectares de terres agricoles, de forêts et de zones humides, fragmenter des écosystèmes et fragiliser encore plus la biodiversité, dont une dizaine de sites Natura 2000. Et du point de vue économique et financier, ce projet coûte 14 milliards d'euros. C'est en attente de réactualisation, ce chiffre. Il repose sur un financement conjoint de l'État à 40%, des collectivités qui prélèvent une taxe supplémentaire auprès des habitants et des habitantes à hauteur de 40% du projet et de l'Union européenne à hauteur de 20% qui n'a pourtant jamais confirmé prendre sa part.
Enfin, hier, un nouveau contrat de ville a été signé avec 12 communes de la métropole de Bordeaux et l'État.
L'objectif est de réduire d'ici 2030, je cite, « les écarts de développement, restaurer l'égalité républicaine, améliorer les conditions de vie des habitants et des habitantes des quartiers prioritaires ». Parmi les signataires, de nombreuses instances comme la CAF, France Travail, l'ARS et de nombreux acteurs et actrices travaillant sur ces quartiers. Et parmi les chiffres relevés par Sud-Ouest dans ces quartiers prioritaires, ce sont 38% des plus de 15 ans qui ont terminé leur scolarité sans diplôme, 40% des foyers qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 24% de travailleuses précaires et 30% des familles qui sont en situation de monoparentalité. Et selon des informations Sud-Ouest, 23 quartiers sont concernés par le contrat, soit plus de 70 000 habitants et habitantes. Le périmètre de ces quartiers, qui parfois fait débat, a été retouché pour prendre en compte les réalités de terrain. Le calcul de ces zones prioritaires se fait sur la concentration de pauvreté et est parfois biaisé par des phénomènes de gentrification. Le périmètre du Grand Parc a notamment été élargi, passant de 4 000 à 8200 habitants. Et deux nouveaux quartiers entrent dans le dispositif, Olivrac à Pessac et Maurice Thorez à Bègles. Christine Bost, présidente de Bordeaux Métropole et maire d'Eysines, rappelait, je cite, que 9% des habitants et des habitantes de la métropole vivent dans ces quartiers. Il faut agir pour que les fragilités sociales soient du mieux possible gommées. Et le mois prochain, la métropole devrait voter un plan d'aide d'urgence de 35 millions d'euros pour le logement social. Actuellement, ce sont 40 000 demandes de logements sociaux qui sont en attente en Gironde.
Merci beaucoup Léa pour toutes ces informations. Et puis une petite page culturelle avec les infos culturelles au calendrier dans les quartiers nord de Bordeaux et Jennifer de Bordeaux Nord. Bonjour Jennifer.
Bonjour aux auditeurs de la Clé des Ondes. Le collectif Bordeaux Nord vous informe de l'actualité culturelle de cette semaine sur les quartiers nord de Bordeaux. Dans le cadre du mois de la photographie, le collectif Photo Club propose une exposition du travail de 10 photographes à la croisée des regards, visible à la Halle des Chartrons jusqu'au 28 avril de 10h à 19h. La bibliothèque du Grand Parc organise un atelier nommé Blason et pas blasé à destination des 6-12 ans, mardi 23 avril de 11h à midi. Livret de l'art expose le travail de la plasticienne Sylvanie Tendron du 18 au 30 avril. L'annexe B au Grand Parc accueille l'exposition artistique nommée Utérus. Il s'agit d'une œuvre collaborative de Sophia Rivas et Amina Abdallah à découvrir jusqu'au 28 avril. La seconde édition du festival Digital Days Bordeaux s'installe au centre d'animation du Grand Parc jusqu'au 3 mai. Au rendez-vous de cette semaine, atelier de captation sonore du chant des plantes, le mercredi 24 avril de 14h à 17h30, puis atelier de création et composition à partir de ces captations, le jeudi 25 et vendredi 26 avril de 17h à 18h. L'association Interlude propose un atelier de fabrication d'un attribut de clown à partir de 4 ans. Rendez-vous jeudi 25 juillet de 10h à midi à la ludothèque des Berges du Lac. L'association Les Petits Tréteaux organise tous les jeudis soirs de 18h30 à 20h30 des ateliers de théâtre gratuits, ouverts à toutes et tous. Rendez-vous jeudi 25 avril au Centre Social du Grand Parc. Blonde Vénus organise une soirée cinéma avec le film de Tim Burton, Big Fish, ce jeudi 25 avril à 20h. La bibliothèque de Bordeaux-Lac propose diverses animations. Une animation musicale pour les 4-7 ans, vendredi 26 avril de 15h à 16h, et un café littéraire thématique, samedi 27 avril à 11h. La Cité Bleue de Bacalan accueille la compagnie Jusqu'à l'aube pour un temps de répétition publique de sa nouvelle création théâtrale « Quand j'étais petite, je voterai » à partir de 6 ans. Rendez-vous vendredi 26 avril de 18h à 19h. La troupe Hip Hop Games débarque à la salle des fêtes du Grand Parc pour un format inédit. Le bal Hip Hop Games et ses guests. Pour cette édition spéciale, la troupe s'est associée à des talents locaux et aux associations Fish and Shoes et La Belle à l'Ouest pour vous offrir une soirée dansante époustouflante. Ouverture des portes à partir de 19h le samedi 27 avril. La 33e édition de l'itinéraire des photographes voyageurs se poursuit jusqu'au 28 avril dans plusieurs lieux de la ville de Bordeaux, dont la galerie Arrêt sur l'image et la maison Bourbon sur le quartier Chartrons Nord. Et pour finir, le collectif Bordeaux Nord vous invite à créer et à participer à la future édition de la fête du quartier de Chartrons Nord, l'été en or. Pour ce faire, nous lançons un défi aux habitants. Créer, dessiner, écrire, fabriquer sur le thème du vivant pour exposer à l'été en or dans la rue Joséphine jusqu'au parc Chantecrit. Toutes les créations et tous les matériaux sont les bienvenus, seuls ou à plusieurs, en famille, entre amis, en classe, en groupe. Ce n'est pas une compétition, mais une grande contribution collective à laquelle on peut participer, quel que soit son âge. Inscrivez-vous auprès de nous, plus d'infos sur notre site internet. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À bientôt sur bordeauxnord.org.
Merci beaucoup Jennifer pour toutes ces infos. Midi 19 sur la clé des ondes. Alors ce jeudi 25 avril, on fêtera les 50 ans de la révolution des œillets. C'est une date importante, celle du renversement d'un régime dictatorial. C'est considéré aussi par certains comme la dernière révolution en date sur le sol européen. Une date importante aussi pour notre radio et son importante communauté d'auditeurs et d'auditrices portugais-portugaises. Demain midi sur notre antenne, on entendra le témoignage d'Adelino Gomes qui est journaliste et qui a couvert le 25 avril 1974 à Lisbonne. Aujourd'hui, on reçoit des Bordelais et Bordelaises qui ont un lien plus ou moins fort avec le 25 avril, avec cette date, avec cette révolution. Pour commencer, Manuel Dias. Bonjour Manuel.
Bonjour.
Tu es né au Portugal sous la dictature, tu es arrivé en France à 18 ans. On peut dire que tu as milité toute ta vie pour la reconnaissance et la solidarité avec les immigrés. Tu continues d'ailleurs de le faire. Tu es membre aujourd'hui du comité Sousa Mendes et de la Ligue des droits de l'homme. Maria Luisa Arnaud, bonjour.
Bonjour.
Tu es portugaise toi aussi. Tu étais à la fin de tes études pour devenir enseignante en avril 1974 à Porto.
J'étais déjà enseignante.
Déjà enseignante.
Je passais le stage pour ce qui correspond à la grecque, des universitaires.
Michel Cabanne, bonjour Michel.
Bonjour.
Économiste français, toi, on t'entend tous les mois dans les clés de l'écho dans cette même émission. En 74, tu étais engagé en politique avec le PSU et tu t'es intéressé à la situation du Portugal à cette époque-là avec des amis à toi qui étaient portugais. Mélina, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu es d'origine portugaise, tu es française, tu es étudiante en droit et militante à Révolution Permanente. On aura avec toi le regard d'une personne qui n'a pas vécu cet événement-là. Et puis, on attend, s'il arrive, Valdemar Félix, bien connu de nos auditeurs et auditrices, animateur des émissions portugaises le week-end, Portugal em Bordeaux et Aqui Portugal, sur notre antenne le dimanche matin. Je vais commencer par un petit rappel historique, j'espère en disant pas trop de bêtises. Alors au début des années 70, le Portugal est engagé dans des guerres coloniales en Angola et au Mozambique. Ces guerres touchent durement la population, sommet d'y envoyer ses fils. Mais elles sont aussi un terreau de radicalisation pour des militaires qui constatent l'absurdité de ces conflits et refusent d'y participer de plus en plus. C'est dans ce contexte que des capitaines de l'armée s'organisent jusqu'à cet événement dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, avec d'abord un signal qui est lancé à la radio par la diffusion de deux chansons, dont Grandola Villa Morena, qui était alors interdite par le régime. Des troupes se mettent alors en route vers Lisbonne afin de destituer Marcelo Caetano, qui était alors le successeur de Salazar à la tête du gouvernement. C'est le début de cet épisode qui conduira à la démocratisation de l'État portugais. On va se demander, nous, ce qu'il reste de tout ça aujourd'hui, ce qui reste de cet événement et de la révolution des œillets 50 ans après. J'ai envie de vous demander, peut-être pour commencer, vos souvenirs de cette époque. Alors, cette époque d'une période où à la fois il y a encore cette chape de plomb de la dictature et puis où les choses vont basculer plus ou moins rapidement. Maria Luisa, toi, à cette époque, donc, tu commençais à enseigner. Quel souvenir tu gardes de ces jours-ci, et notamment du 25 avril?
Je garde des souvenirs, puisque j'ai commencé à enseigner. Et c'est pour... j'avais 24 ans. Et à l'époque, avec des collègues aussi enseignants, on se réunissait clandestinement, évidemment, parce qu'on ne pouvait pas se réunir.
Les syndicats étaient interdits.
Ah, c'est complètement interdit. On ne pouvait pas avoir un groupe de plus de 3 personnes dans la rue. Autrement, la police viendrait immédiatement. La plupart des musiques, tu ne pouvais pas écouter, ni de rien. Donc, c'était vraiment une chape de pont. Par exemple, je faisais mon stage dans le lycée où la maîtresse de Caetano était la directrice.
Qui venait Elle avait espionner. Été la maîtresse du chef du gouvernement.
Irene Lisboa, une très connue sculptrice, etc. Par exemple, elle venait regarder par la vitre. Voilà, moi, comme je faisais des formations sur la créativité, des groupes, des sous-groupes, évidemment que c'était complètement interdit. Par exemple, elle aimait humilier les enseignants en me disant « Agenouille-toi par terre dans la salle des profs », puisqu'évidemment, mes mini-jupes n'arrivaient pas jusqu'au sol. En même temps, c'est sûr que j'étais une privilégiée et que je voyageais beaucoup. J'avais fait des études en Angleterre, etc. Et j'avais un passeport. C'est seulement maintenant, quand j'ai rencontré mes amis, que j'ai su que la plupart des Portugais n'avaient pas droit à un passeport. Mmh. Ce qui n'était pas du tout mon cas. Or, et comble de la chance, bon, j'avais mon beau-frère qui était le secrétaire. Je parle de juste avant,
juste avant 24
avril, ouais. Était le secrétaire du général Costa Gomes. Et je sortais avec un capitaine d'avril. Pensez-vous.
Donc les capitaines, ce sont ces officiers qui avaient été dans les guerres coloniales et qui ont déclenché ce coup d'État.
Mais pensez-vous qu'ils disaient quelque chose? Non, rien. Ils n'ont rien dit. Il y a eu mon beau-frère qui disait « Demain, ne sortez pas trop la nuit, moi, de sortir. Ben, je vais chez mes amis comme d'habitude. » Parce que vraiment, personne ne s'est... Nadine n'a soufflé un mot. Donc, c'était vraiment tout très, très bien préparé, très bien, et ils ont tous tenu. Ça, c'était, je trouve que c'était incroyable, qu'ils soient capables de garder le secret comme ça.
Et alors, bien quand sûr, ça arrive, quand tu apprends ce qui se passe.
Bon, le 24, j'étais avec des amis, etc., et on écoutait la radio, on écoutait le programme Limite, évidemment. Qu'est-ce que j'entends ? Grêndola Vila Morena, je me dis, mais il est fou, les sauvages cancels, c'est quoi ça? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Bon, voilà, mais après, bon, je suis allée me coucher normalement, chez moi et tout. Et c'est seulement le matin, quand je me suis levée, que j'ai entendu ici, comment qu'il y a, aqui, posto de comando das Forças Armadas, movimento das Forças Armadas. J'ai dit, bon, voilà, ça y est, c'est quelque chose qui...
Traduction
ici, poste de commandement des forces armées, nous sommes le mouvement des forces armées, voilà. Mais carrément à la radio, c'était incroyable d'écouter ça vraiment à la radio, vous ne pouvez pas imaginer. Et après, bien sûr, comme Manuel a dit, vraiment, ce qui était extraordinaire, c'était après, parce que tout ça, il faisait très beau. C'est très chaud. Et alors, tout le monde se mettait à parler avec des sigles. Ta, 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 et beaucoup disaient, ah, je fais en CPI, cours de plage intensif, au lieu d'aller faire des choses comme ça. Mais ce qui était
qu'est-ce
vraiment...
que ça voulait dire alors, tous ces sigles, c'était quoi?
Parce qu'on commençait à parler avec des mouvements, des choses comme ça. Bon, on parlait déjà comme ça, parmi les étudiants de gauche, des choses comme ça. Mais après, tout le monde se mettait à parler comme ça. Bon, bref.
Et c'était une vague de politisation, en tout cas de discussion politique, c'est
de
ça
politisation,
sur...
C'est-à-dire que, par exemple, le jour du 25 avril, l'après-midi, donc bien sûr, je suis allée travailler. Et alors l'autre, la directrice en noir, avec des lunettes, « Comment vous pouvez être si heureux quand mes amis sont en prison ?» Je disais, écoutez, donnez-moi la clé du coffre. Donc, pour qu'elle nous donne la clé du coffre. Sinon, bon, après, on a appelé des militaires qui étaient à côté et tout. Et elle était très simple. Elle a dit, ah, je vous la donne la clé parce que vous appartenez à des familles connues. Bon, elle donne la clé. On va au coffre et on trouve qu'elle nous avait dénoncé à tous. Heureusement, c'était le 25 avril à 15h de l'après-midi. Et donc, notre réunion qui était supposée être... clandestine, est devenue une réunion
officielle.
Mais vous voyez le style de... C'était vraiment... Tout était interdit. Tout.
Manuel Dias, donc toi, tu étais déjà en France à ce moment-là. Tu travaillais au chantier naval de Nantes. Tu étais à la CFDT, syndicaliste notamment. Comment ces événements-là, toi, en tant que Portugais en France, tu les as reçus? Qu'est-ce que ça... représenter peut-être pour toi tout de suite ce moment-là?
D'abord, une grande joie et en même temps un sentiment de liberté. Donc, ce qui nous a été interdit pendant 48 ans. Et deuxièmement, le sentiment effectivement qu'on allait enfin pouvoir tourner la page de ces sinistres guerres coloniales qui avaient été un massacre humain et financier pour le Portugal, et pour moi également, c'était retrouver la démocratie et pouvoir rêver. Je pense que nous, on nous a interdit pendant notre jeunesse de rêver, de respirer, de vivre tout simplement. C'était la notion de pouvoir enfin respirer, de pouvoir être un homme ou une femme libre.
Toi, tu étais parti du Portugal 10 ans avant, c'est ça?
Moi, j'étais parti du Portugal 10 ans avant pour fuir la guerre coloniale.
Pour ne pas être mobilisé, c'est ça ?
Le fascisme et en même temps la répression. Moi, j'étais membre d'un syndicat clandestin. À l'époque, on était surveillé comme le lait sous le feu. Agir au Portugal dans les années 60, c'était prendre des risques incalculables.
Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, tu entends, j'imagine, à la radio, dans les infos, ce qui se passe au Portugal. À ce moment-là, c'est un coup d'État militaire, quand même. C'est pas encore une révolution. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu te dis ? Est-ce qu'il y a ce mouvement de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce qu'on en fait de ce moment-là ? Manuel ?
Le 26 à midi, nous avons organisé au chantier naval de Nantes une réunion avec des Portugais qui travaillaient au chantier naval. Et ça a été pour nous le premier moment de joie collective. Parce que d'abord, ça a été une joie personnelle où chacun a essayé de déguster ces moments de bonheur. Et dès le 26 avril, au chantier naval, à midi, pendant le repas, on s'est retrouvés et on a commencé à partager nos informations. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer à Nantes le premier comité de soutien à la Révolution portugaise. Le premier a été constitué à Paris, et le deuxième comité de soutien à la Révolution portugaise a été constitué à Nantes, au chantier naval.
Et alors, c'était quoi l'idée de ces comités de soutien ?
L'idée, c'était effectivement de partager nos informations, de comprendre ce qui était en train de se passer, parce que au Portugal, en 1974, c'était un coup d'État militaire. Et c'était une volonté des soldats et des membres des forces armées de mettre un terme à la guerre coloniale et d'assurer une transition. Le Portugal a connu la révolution à partir du 1er mai 1974, lorsqu'à Lisbonne, 1 million de personnes s'est trouvé dans la rue. C'était gigantesque. À Porto, 450 000. Dans un certain nombre de villes comme Viana do Castelo, Setúbal et d'autres villes, le 1er mai au Portugal a été une explosion de joie. Et c'était là où le peuple s'est approprié ce processus révolutionnaire. Et c'est à partir de là que le peuple a été aux portes de prison pour faire libérer les prisonniers. Parce que les soldats qui ont fait le 25 avril n'avaient pas l'intention de libérer tous les prisonniers. La libération, l'ouverture des portes des prisons s'est faite grâce au mouvement des foules, grâce à cette joie immense qui a complètement bouleversé tout le monde. Moi, j'ai eu une discussion avec Otel Schreiber de Carvalho qui m'a dit « Moi, je n'ai jamais pu imaginer comment ces peuples avaient autant envie de liberté. »
Maria Luisa, oui, tu es d'accord avec ce truc. À la fois, dans ce que dit Emmanuel, il y a deux choses. Il y a la joie, le bonheur de ce moment-là. Et il y a ce qui se passe.
Ce 1er mai, on ne peut pas imaginer qu'est-ce que c'était, mais vraiment une foule. Les drapeaux rouges, mais tous les drapeaux. C'était quelque chose d'absolument extraordinaire. Comme on commençait moi, j'étais à Porto, à commencer à voir tout le monde qui descendait en chantant. C'était indescriptible. Qu'est-ce que c'était ce 1er mai ? Et vraiment, par exemple, comme je t'avais dit, même si les autres m'avaient dit « ne sors pas, tu parles », on sortait tout le monde là, tout le monde dans la rue, tout le monde, et c'est là où vraiment on s'est approprié de... Et après, par la suite, c'était très intéressant. On passait tout le temps à faire des réunions. Moi, j'étais déléguée syndicale tout de suite. On faisait beaucoup de... Et on allait, par exemple, en mission dans le Nord, à Trás-os-Montes, dans des écoles, etc., pour justement sensibiliser les personnes. Et c'est vrai que je me rappelle qu'il y avait pas mal de Français qui venaient avec nous. Mais c'était un peu compliqué parce que nous, on était pressés de faire c'était pas l'alphabétisation, mais la politisation. Et on ne pouvait pas passer tout le temps à traduire en français, etc., puisqu'ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. Mais c'était vraiment très, très, très intéressant. C'était...
Justement.
Par exemple, une chose incroyable, avant, je pense, puisque j'ai Simeline, avant le 25 avril, par exemple, des étudiants à Porto qui se réunissaient dans un café qui était de gauche, et le signal pour qu'on se réunisse, c'était d'aller au tel, quelqu'un au café disait comme ça, allô, allô, Monsieur Che Guevara au téléphone. Monsieur Che Guevara au téléphone. Bon, et nous, on savait déjà qu'un truc comme ça, c'était pour qu'on puisse se réunir. Mais la personne qui faisait ça, elle pourrait aller en prison. Alors, un truc comme ça.
Justement, tu parlais des Français qui sont arrivés à ce moment-là au Portugal. Michel Cabanne, toi, tu es Français, tu étais en France, engagé en politique avec le PSU. C'est quoi l'onde de choc qui arrive à ce moment-là en France et qui saisit aussi les militants français ?
Alors, ça a été une formidable surprise le 25 avril 1974. Il y avait, au niveau européen et mondial, déjà une forte effervescence. Il y avait eu 68 en France, mais dans beaucoup d'autres pays, il y avait des mouvements sociaux importants, il y avait les difficultés des États-Unis, la guerre du Vietnam et leur départ. Et en sens inverse, il y avait eu le coup d'État au Chili 8 mois avant.
Coup d'État donc, contre Salvatore Allende.
Tout le monde s'intéressait aux affaires internationales, mais il y avait la péninsule ibérique qui paraissait être complètement congelée, figée, à l'écart de tout cela. Et alors, lorsque on a eu cette journée du 25 avril, ça a été la stupéfaction, ça a été une surprise magnifique pour nous tous, quoi. Et avec plus, au moins deux aspects. Le premier aspect, c'est que ce soit l'armée, que ce soit des militaires qui aient fait ce coup d'État qui a été le point de départ d'une vraie révolution. Pour nous, l'armée, c'était l'armée coloniale. Dont, et en plus, au Chili, l'armée avait fait un coup d'État d'extrême droite. Donc, c'était inimaginable qu'un mouvement progressiste, et démocratique et progressiste au niveau des structures sociales aussi, apparemment, à voir ce qui est devenu le MFA après, en cours de route, vraiment, ça a été la grande surprise. Et deuxième surprise, la manière dont le peuple portugais a embrayé immédiatement dans la journée les Lisboètes qui sont descendus dans la rue avec des centaines et des centaines de milliers de personnes à Porto aussi, tu disais Manuel. Donc ces deux aspects de la révolution portugaise, ça nous a beaucoup surpris et véritablement émerveillés. Et donc l'année après, eh bien, il y a eu beaucoup de jeunes de divers pays européens qui ont décidé d'aller pendant l'été en vacances au Portugal. Moi, je me suis retrouvé en août 75, passé un mois dans les principales villes, j'ai vu les manifestations, etc. Mais notre motivation, c'était de chercher à comprendre, et évidemment de soutenir, mais surtout de chercher à comprendre cette révolution portugaise qui nous avait beaucoup surpris.
Et d'en retirer quelque chose, peut-être, à ramener en France.
En plus, oui, éventuellement. En l'été 75, c'était ce qu'on appelait l'été chaud au Portugal, et c'était posé les principaux problèmes qui peuvent se poser à un mouvement de rupture avec l'ordre antérieur, entre les plus radicaux, les plus modérés, les civils, les militaires, le PC, le PS. Il y avait plusieurs clivages qui interféraient et qui faisaient que c'était une situation extrêmement compliquée. Mais je pense vraiment, au vu de ce qui s'est passé ensuite, que la grande majorité avait un grand sens des responsabilités dans une situation extrêmement difficile.
Alors, bon, on n'a malheureusement pas le temps d'aller dans les détails, mais de ce que ça a provoqué concrètement, cette révolution, il y a la question des guerres coloniales, il y a la question du niveau de vie, il y a la question de la liberté. Donc, on a l'impression que la liberté, ça, c'est quelque chose qui, très vite, a pu se mettre en place. Mais sur la pauvreté, la précarité de la population, sur la guerre, etc., est-ce que les choses, assez rapidement, ont pu s'améliorer, Maria Luisa ?
Immédiatement, non. Un des problèmes, c'est que justement, par exemple, le littoral était complètement coupé de l'intérieur. Il n'y avait pas de route. Il ne faisait pas de route, ce n'était pas par hasard. Hein, qu'il y avait c'était voulu. Et donc ça, comme tu peux imaginer, ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Moi, je peux parler dans le secteur où l'éducation nationale, parce que très vite, on a pu changer les programmes et introduire des notions dans le programme scolaire, des modifications. Et une chose, par exemple, extrêmement importante, c'est qu'on a tout de suite lancé les bases de ce qu'on appelait la gestion démocratique de l'école. Où l'école, les écoles étaient écoles, quand je dis école, c'était du primaire jusqu'à l'université, seraient gérées par un comité de personnes élues, avec des représentants de tout le monde, la gestion démocratique. Mmh. Et ça, on a pu, j'ai beaucoup participé à ce genre de choses. Donc ça, c'était possible. En revanche, évidemment, que les routes, l'amélioration de... Ça, c'était plus compliqué à faire. Hein. Et en plus, que je pense qu'il y avait il y avait pas mal de personnes des États-Unis et je sais pas quoi qui venaient un peu observer ce qu'on faisait.
Avec une certaine peur de
Je sais pas, mais voilà, comme je parlais plusieurs langues, une fois on m'a dit, va parler avec quelqu'un, que c'était un délégué d'un ambassadeur qui était absolument quelqu'un de assez terrible, quoi. Enfin, parce que les gens voulaient savoir qu'est-ce que c'était. Mais, par exemple, donc nous, au niveau de l'éducation, on a pu commencer à faire des choses, parce que c'était des choses, disons, immatérielles. Mmh. Et nous, on donnait beaucoup de temps à des choses. Moi, j'ai participé à la... pour le reste, c'était plus compliqué.
Manuel Dias, sur cette question de ce qui a bougé par la suite.
Ce qui a bougé, ça a été une explosion au niveau culturel. Donc, la culture était partout. Donc la culture et l'éducation populaire ont été vraiment des éléments portés par le mouvement des forces armées. Donc il y avait des meetings et des séances de sensibilisation et d'écoute de la population. Deuxième acte politique fort, ça a été effectivement l'abolition de la censure et effectivement la constitution d'un premier gouvernement de transition, la fin des guerres coloniales, et le commencement, effectivement, de l'occupation d'un certain nombre d'usines, d'un certain nombre de terres. Donc les paysans de Doualintège et de Ribatège se sont appropriés les terres. La bourgeoisie a pris peur. Une partie de l'élite est partie au Brésil parce qu'ils ont eu peur de cette explosion de joie. Puis l'autre élément également qui a été important pour nous tous, et importante également pour le peuple portugais, ça a été l'ouverture des prisons. Donc il y avait des milliers d'hommes et de femmes dans les prisons et la libération des prisonniers politiques et la création et la constitution immédiate de la liberté des partis politiques et des syndicats libres. Donc ce qui a permis d'organiser immédiatement, en quelques jours, les grandes manifestations populaires de 1er mai au Portugal, qui ont été, en fin de compte, le point d'orgue, pour ne pas dire l'élément central de l'appropriation du processus de démocratique par le peuple, et ce que j'appelle, moi, le commencement de la révolution. Et la présence également au Portugal, pendant cette période-là, d'un certain nombre de personnes venant de l'étranger, c'est ainsi l'arrivée au Portugal des réfugiés politiques. On a ouvert les portes des prisons, mais on a également permis l'entrée au Portugal d'une partie de l'opposition portugaise, communiste, extrême-gauche, socialiste. La grande majorité des cadres portugais étaient à l'étranger, dont beaucoup étaient à Paris.
Mélina, alors je rappelle que toi, tu es étudiante, tu es d'origine portugaise, tu es militante à Révolution Permanente. Toi qui n'as pas vécu tout ça, quelle image on t'en a transmis et quelle image toi tu t'es construite de cet événement du 25 avril 1974?
Bah, étonnamment, une image très dépolitisée des choses. Enfin, moi, j'ai toute une partie de ma famille qui est au Portugal et on me parle de ces jours qui vont arriver et de la fête nationale portugaise du 25 avril comme quelque chose, enfin comme des festivités ou quelque chose où on commémore justement la liberté, etc. Enfin, déjà, je tiens à préciser que vos témoignages sont très très touchants. Enfin, une partie de ma famille a vécu la même chose, donc c'est incroyable. Mais je pense aussi que, enfin, c'est une commémoration qui est d'une soi-disant démocratie, mais on omet totalement aussi le processus révolutionnaire qui a suivi l'auto-organisation des travailleurs, etc. Et également, un autre aspect très, très important, c'est que le 25 avril, ça ne s'est pas fait en un seul jour, que la libération, ce n'était pas la libération notamment des travailleurs dans les colonies portugaises, etc. Et que ce processus, il a été quand même marqué par une profonde remise en cause aussi du capitalisme et de l'impérialisme dans les colonies portugaises. Et ça, c'est quelque chose qu'on omet un petit peu d'en parler. Et aujourd'hui, la révolution des œillets, elle est très peu connue, notamment dans la jeunesse, alors qu'en réalité, c'est quand même la plus vieille. Enfin, c'est le plus vieux. Enfin, ça a mis fin au plus vieux régime dictatorial en Europe. Et moi, je suis assez étonnée quand même qu'on n'en parle pas de façon plus politique de cet événement.
C'est-à-dire, tu vois une différence entre la manière, là, les témoignages qu'il y a pu y avoir, des témoignages qu'il peut y avoir dans ta famille aussi, par exemple, oui. Et le récit un peu officiel, médiatique, qui en est fait au Portugal.
Oui, ouais, le récit du discours dominant, effectivement, qui est d'ailleurs plutôt le récit de la contre-révolution bourgeoise.
Manuel Dias, une réaction ?
C'était juste pour rebondir ce que vous venez de dire. Au Portugal, il y a une dizaine d'années, le gouvernement de droite de l'époque a refusé le terme « révolution ». Ils ont appelé ça « l'évolution ». Donc ils ont changé le mot « révolution » par « évolution ». Et ces mêmes personnes, qui il y a une dizaine d'années ont transformé le mot « révolution » en « évolution », sont au pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, au Portugal, c'est ces mêmes personnes-là du PSD qui ont pris le pouvoir il y a quelques semaines. Et au-delà de ça, le peuple portugais qui n'a pas de mémoire, comme la plupart des peuples, ont élu au Parlement portugais 50 députés du Front National. Aujourd'hui, le Portugal est une démocratie, mais est une démocratie capitaliste, est une démocratie dans laquelle, effectivement, les droits et le pouvoir des travailleurs est au second plan. On est encore dans une démocratie, mais on est dans une démocratie capitaliste et bourgeoise.
Alors, puisqu'on a, du coup, on a fait un grand bond dans le temps entre 74, 75 et aujourd'hui, mais c'est intéressant justement de revenir sur qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là, ce processus révolutionnaire et aujourd'hui pour que, comme tu viens de le dire, Manuel, ce soit une démocratie capitaliste, bourgeoise, etc. Moi, je voulais vous interroger sur comment s'est passée la révolution, qu'est-ce qui a permis cette révolution, mais aussi qu'est-ce qui a permis sa confiscation derrière par d'autres forces. Alors, peut-être on peut revenir dans l'ordre sur qu'est-ce qui a permis cette révolution. D'abord, moi, l'impression que j'ai en lisant, en entendant, en écoutant des choses autour de ça, c'est que on a l'impression que ça s'est fait dans la douceur, malgré que ça a été conduit par des militaires, c'est un coup d'État, mais il n'y a que 4 morts faits par la police politique du régime. Comme si, en fait, le fruit était mûr, que la société était mûre et que ben, ça se faisait tout seul, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce que ça s'est fait tout seul ? Et qu'est-ce qui a permis que ça se fasse de manière aussi douce que ça ?
Ce qui a permis Manuel ? Que la révolution ait lieu au Portugal, c'était les conséquences des guerres coloniales. Les soldats et les officiers portugais avaient ras-le-bol de cette guerre qui n'en finissait pas. Il y avait quand même des centaines de morts tous les ans, des blessés graves. Le Portugal porte encore aujourd'hui les séquelles de ça. On parle beaucoup, effectivement, des Portugais qui ont été victimes de la guerre, mais on oublie complètement qu'il y a eu 1 million d'Africains, des hommes et des femmes qui se sont battus pour leur liberté, qui ont été massacrés par cette même armée-là. Il ne faut jamais oublier ça. Ces soldats qui ont libéré le Portugal, c'est eux-mêmes, au service d'un régime, qui ont massacré au Cap-Vert, à Guinée-Bissau, en Angola, au Mozambique, ces peuples qui luttaient contre la liberté, pour leur liberté. Au Portugal, pendant les guerres coloniales, il n'y a pratiquement pas eu de prisonniers politiques. Chaque fois qu'un Africain était attrapé, il était fusillé. Il n'y avait pas eu, pendant la guerre coloniale, pratiquement pas de prisonniers politiques du côté des forces africaines. Ça veut dire que la répression et que le comportement et ces répressions ont été décrétées par le gouvernement. Et le dernier pays, les deux derniers pays à avoir soutenu les guerres coloniales et le fascisme au Portugal, c'était l'Afrique du Sud et la France. La France de Pompidou. et la France de Giscard ont continué à soutenir massivement les guerres coloniales, alors que les Anglais et les Américains avaient déjà pris du recul par rapport à ça. Et donc, ce qui a permis la révolution au Portugal, c'est les conséquences des guerres coloniales. Mais c'est aussi les conséquences de la résistance à l'intérieur du pays. Le Parti communiste et les partis d'extrême-gauche, à partir des années 60-70, se sont fortement... Ils ont payé le prix du combat pour la liberté. La liberté n'est pas venue comme ça, comme un cadeau, comme un fruit qui tombe de l'arbre. La liberté est venue comme le résultat de combat d'un peuple pour sa dignité et pour sa liberté.
Maria Luisa.
Mes souvenirs sont aussi quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'on a appris à prendre la parole, à se réunir et à écouter les uns les autres. Si j'ai un souvenir, on a passé tout l'été de 74, même 75, en réunion et avec des gens qui avaient des opinions assez divergentes. Par exemple, je me rappelle à un moment de quelqu'un qui disait « Ah, on va brûler des livres !» Et moi, je me rappelle dire « Non, c'est pas possible. Brûler des livres, c'est ce que faisaient les nazis. Donc nous, gauche, je sais pas quoi, on ne va pas brûler des livres. On va écouter, on va dire... » Et c'était cette espèce de... Tout le temps, on se réunissait. Et ça, c'était un apprentissage incroyable. Or, tout ça, ça prend du temps. Ça prenait du temps. Et donc, les choses ne se faisaient pas aussi vite qu'on aurait souhaité. C'est ça. Mais, c'est, mais ça, c'était très important. Les réunions constantes. Tout.
Michel Cavanne, en préparant l'émission, j'ai cru voir que la croissance au Portugal, les années précédant le coup d'État, n'était pas si mauvaise. En tout cas, sous le régime de Salazar, il y avait eu un accroissement économique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien entre la manière dont vivait la population? Parfois, on dit, voilà, si on a le ventre vide, ça va plus facilement déclencher des révoltes, mais en même temps, bah, on n'a pas l'énergie pour y aller. Est-ce que toi, tu verrais un lien, une analyse économique de comment la révolution est arrivée, Michel?
La composante économique ne me paraît pas essentielle pour expliquer ce qui s'est passé. Je reprendrai volontiers l'interprétation de Manuel précédemment. Sur l'aspect économique, les dernières années, le Portugal avait fait 5%, mais à l'époque, c'était fait par de très nombreux pays, et ce n'était pas vraiment exceptionnel pour le Portugal, qui avait accumulé un retard considérable. Le niveau de vie des Portugais, d'après ce que j'ai lu, étaient en début 74 à peu près la moitié du niveau de vie des Espagnols, qui était déjà inférieur à la moyenne européenne. Donc, y avait évidemment une aspiration à vivre mieux. Incontestablement, ça était une des composantes du mouvement populaire, mais ce mouvement populaire avait d'autres aspects, notamment la revendication de démocratie directe, les occupations d'usines, occupations d'exploitations agricoles ou d'immeubles, qui allaient bien au-delà de la seule revendication de type quantitatif, aussi légitime soit-elle. Et il y avait les deux hein, dans le mouvement populaire. Mais ce qui s'est passé, me semble-t-il, c'est que le dénominateur commun de l'immense majorité de la société portugaise, c'était mettre en place des structures démocratiques. Ensuite, il y avait certainement un sous-ensemble qui était pour aller plus loin en matière de démocratie participative, y compris directe dans un certain nombre de cas. Et il y avait un autre sous-ensemble qui recoupait le précédent, qui était d'accord pour aller plus loin en matière de fraternité et d'égalité. Mais là, il n'y avait pas un consensus total dans la société portugaise, ce qui a permis aux forces qu'on peut qualifier de modérées et parfois de réactionnaires, de l'emporter à partir de la fin de 75, me semble-t-il.
Mélina, toi, en tant que militante révolutionnaire, là, aujourd'hui, est-ce que tu vois des leçons un peu à tirer, des choses intéressantes voilà, de ce qui s'est passé et qui peuvent resservir aujourd'hui pour les futures révolutions à venir, peut-être ?
Oui. je pense que déjà il faut, enfin, comme je le disais tout à l'heure, mais il faut vraiment genre, se rappeler l'auto-organisation des travailleurs, que ce soit dans les usines, l'expropriation des terres, des usines, etc. Et enfin, il faut aussi, excusez-moi, il faut aussi peut-être comment dire, en fait, que ça soit en France ou au Portugal, la lutte, par exemple, déjà contre l'extrême droite dont on parlait tout à l'heure, elle peut pas se faire sans le mouvement ouvrier dans son ensemble, parce que c'est la seule force aujourd'hui qui, enfin aujourd'hui comme toujours, qui peut faire reculer le gouvernement, et c'est ce qui se passait du coup au Portugal dans les années 74 et suivantes, dans les 18 mois de mobilisation qui ont suivi. Et il faut aussi, je pense, pas être dupe sur les droits et libertés que nous accorderait la bourgeoisie et cette pseudo-démocratie qui a été mise en place par les votes et par les élections, parce qu'en réalité, elle a juste stoppé l'immobilisation et le processus révolutionnaire qui était en cours, alors que ça aurait pu être un vrai processus, une révolution jusqu'au bout, et c'est ce qui s'est passé durant la révolution des Oeillets en 1974. Désolé, c'était pas très clair.
Et justement, pour revenir à cette question de l'extrême droite aussi, comment toi tu vois la manière dont l'extrême droite gagne en ce moment, et comment des personnes qui ont pu aller dans les idéaux, vivre pleinement cette révolution, être du côté de la révolution en 1974, et comment parfois ça peut se retourner et on peut être acquis parfois par les idées de l'extrême droite, Mélina.
Très bonne question.
Qu'on peut poser à d'autres autour de la table, Manuel Diaz.
Je pense qu'une partie de cette émergence de l'extrême droite est liée trouve sa base dans une partie de la souffrance et d'une non-écoute de la part des appareils politiques ou du patronat vis-à-vis des classes populaires. Donc, mais également des erreurs qui ont été commises par la gauche. Les partis de gauche qui ont été au gouvernement, qui sont des partis de gouvernement, ont également commis beaucoup d'erreurs, et je pense qu'une partie est liée à ça. Deuxième partie, c'est effectivement lié au fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'utopie. Et aujourd'hui, effectivement, le contexte international crée une situation de peur qui n'engendre pas une logique d'indignation et de révolte. Nous, dans les années 60, 50, 60, 70, on a lutté contre le fascisme, mais il y avait un sentiment, une énergie. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que cette énergie, que ces carburants, c'est un petit peu diminué. Et ensuite, pour moi également, ce qui aujourd'hui explique, c'est également le contexte social. Et le fait qu'on a aujourd'hui maintenu à bas de l'échelle et dans une situation de précarité une partie de la jeunesse et une partie de la population. Donc, pour moi, une grande partie des gens qui votent Front National, c'est beaucoup plus une désillusion. C'est beaucoup plus une désillusion, je parle globalement de la montée de l'extrême droite, qu'une adhésion. Donc l'extrême droite, en fin de compte, fait son lit sur la misère du peuple ou sur les erreurs des uns et des autres. Et si le peuple était capable de réfléchir, ou était capable d'avoir une mémoire des luttes, je pense qu'on pourrait effectivement non pas réduire l'extrême droite, mais au moins limiter sa progression.
Maria-Louisa, un mot de conclusion, très bref, en 30 secondes.
Oui, voilà. Je trouve que peut-être que les gens ont perdu la notion de ce que, qui était une donnée à l'époque du 25 avril, c'est-à-dire de se réunir et d'échanger ensemble. Et vraiment, si aujourd'hui, tout ce que les gens savent, c'est se laisser influencer par ce qu'ils voient sur Internet ou je ne sais pas quoi, ou par des messages, les gens ont oublié d'être ensemble, de constituer des groupes et de se parler les uns et les autres. Je ne sais pas quelles sont, franchement, je ne sais pas les raisons pour lesquelles il y a eu cette poussée récente de chez de l'extrême droite en Portugal, je ne sais pas. Mais je pense que si les jeunes ou les personnes actuellement reprennent le goût de l'échange, le goût de la discussion, d'accepter des opinions différentes, tout serait voilà, et ne pas se laisser influencer par des pressions artificielles venues d'ailleurs. Ouais, je sais pas.
Et justement, pour se rassembler, il y a plusieurs événements cette fin de semaine. Très rapidement, Manuel, jeudi après-midi au Rocher de Palmer, il y a toute une journée consacrée au Portugal.
Jeudi après-midi, on projette un film de M. Arnaud, qui est le mari de Marie-Louise, qui s'appelle « Les murs en la parole », qui montre effectivement cette explosion de joie et comment la culture a été le théâtre de l'explication ou de l'illustration de ces combats. Il y a également un concert qui aura lieu le soir avec un grand artiste angolais qui a vécu longtemps au Portugal, parce que nous avons également voulu, avec Bonga, faire le lien avec l'histoire coloniale portugaise et la fin de 5 siècles d'empire.
Merci Manuel. Mélina, il y a un événement de Révolution Permanente aussi jeudi.
Oui, il y en a deux. Il y en a un jeudi, donc on fait une projection de débat sur les 50 ans de la révolution des œillets au Théâtre de la Rousselle à 18h30, donc c'est jeudi 25 avril. Et le 3 mai, on organise une assemblée ouverte avec Révolution Permanente pour s'organiser pour faire face à l'extrême droite à 18h30 à l'Athénée Liber... Non. L'Athénée municipale, pardon.
Merci beaucoup. Et puis on signale aussi qu'il y aura une fête portugaise à Léognan dimanche à 15h. C'est au Hall de Gascogne. Merci beaucoup à vous quatre, Manuel Dias, Michel Caban, Maria Luisa et Mélina, d'être venus participer à cette émission. Grandola, Vila Morena.
À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.